Borgia. Chapitre 19. Rosa. Raphaël Sanzio, après l'enlèvement de sa jeune femme, avait couru au ghetto pour prévenir la Maga de ce qui se passait. Et il n'avait plus retrouvé la mère adoptive de Rosita. Celle-ci avait en effet disparu. Lorsque Raphaël fut parti, emmenant pour toujours la Fornarina, la vieille Rosa, retirée dans la chambre de la jeune fille, avait eu une crise de désespoir. Seule, maintenant, seule au monde, seule avec ma vengeance. Ces mots sans suite lui échappaient avec des sanglots. Mais le cœur de Maga s'était endurci dans les souffrances, car bientôt, elle parut avoir retrouvé le calme. Elle rentra dans le taudis où elle avait reçu la visite du pape. Puis, ouvrant le vieux bahut, elle en tira le coffret, entassa dans une ceinture l'or et les pierreries qui se trouvaient dans un tiroir. Quand ce fut fini, elle jeta autour d'elle un dernier regard de désolation. Puis, elle sortit. La Maga, ayant franchi les chaînes qui formaient les rues du ghetto, sembla peu à peu reprendre possession de son sang-froid. 10 minutes plus tard, elle se trouvait devant le palais riant. Elle en fit le tour, et, arrivée au point où la construction touchait presque les eaux du Tibre, s'arrêta devant une petite porte qu'elle ouvrit au moyen d'une clé. La vieille Rosa ne s'en servait pas pour la première fois. Déjà, à différentes reprises, elle avait dû pénétrer dans la maison de Lucrèce. En effet, ce fut sans hésitation qu'elle franchit une sorte de cour et s'engagea dans un couloir au bout duquel elle monta un escalier étroit. Parvenue au deuxième étage, la Maga s'orienta dans le dédale des couloirs avec une sûreté qui prouvait sa parfaite connaissance de leur topographie. Enfin, du bout de l'ongle, elle gratta une porte. Ayant attendu quelques secondes, elle gratta encore, mais cette fois d'une manière spéciale, comme d'après un signal convenu. Une minute plus tard, la porte s'entr'ouvrit, et, dans l'obscurité, une voix murmura. « Est-ce vous, signora ? Sainte Vierge, comme votre main est glacée ! Asseyez-vous, là ! Un instant, j'allume un flambeau. » La Maga se laissa conduire par la main et s'assit sans dire un mot. L'homme qui venait de parler s'empressa, alluma un flambeau à la lueur duquel apparut un petit vieillard à figure méphistophélique et à sourire sardonique. Celui-là même, entrevu à l'auberge du beau Janus, apportant à Ragastens un sac de pistoles. L'intendant du palais riant, il signore Giacomo. « Ce tartan sur vos épaules, signora Rosa, reprit le vieil homme, ce coussin sous vos pieds. Êtes-vous bien dans ce fauteuil ? » L'intendant se tenait debout, dans une attitude de respect et presque de vénération, devant la vieille assise. « Giacomo, dit la Maga, je veux la voir. » Le vieux tressauta, joignit les mains. « Que dites-vous, signora ? Je dis que je veux voir Lucrèce. Signora, que me demandez-vous là ? Une chose toute simple et toute naturelle. Mais comment voulez-vous que je la fasse réveiller, que je lui annonce une pareille visite ? Qui te parle de tout cela ? Je ne veux pas qu'on la réveille. Je veux entrer dans sa chambre. Voilà tout. Pendant qu'elle dort ? « Mais oui !» Le vieux se tordit les bras. « Elle se réveillera, elle vous tuera, c'est une tigresse !»« Giacomo, tu parles quand il s'agit d'obéir. Je ne puis plus compter sur toi. Ce serait dans l'ordre, ajouta amèrement la sorcière. On jure obéissance et fidélité. On affirme sur l'Évangile qu'on est prêt à mourir au premier appel. Et puis, on se dérobe. Giacomo se jeta à genoux. L'expression sardonique de son sourire avait disparu. Une poignante tristesse s'était répandue sur son visage maigre, tourmenté, tout ridé. « Maîtresse, » fit-il sourdement, « noble maîtresse, je suis prêt encore à mourir pour vous. Mais non à me faire entrer dans la chambre de Lucrèce, n'est-ce pas ? Écoute, Giacomo, un jour que tu arrivas d'Espagne, tu suivais à la piste l'homme que tu avais juré de tuer. Est-ce vrai ? J'avais à Jativa, fit l'intendant, une femme qui m'aimait et que j'idolâtrais. Cet homme l'attira dans un guet-apens. Pendant 8 jours, fou de désespoir, je la cherchais dans la ville et dans la montagne. Un soir, elle reparut à la maison, mais si pâle que je n'eus pas la force de l'interroger. Alors, d'une voix ferme, elle me dit l'horrible vérité. L'homme l'avait violée, puis, rassasiée, l'avait laissée partir. Quand elle eut fini de parler, ma femme se poignarda sous mes yeux, sans que je fisse un geste pour l'en empêcher. Car, si elle ne l'eût fait, je l'eusse fait, moi. Je jurai sur son cadavre de la venger, et je suivis l'homme, le guettant, attendant l'heure. Il vint à Rome. Il fut cardinal, puis pape. Il était si puissant qu'à peine pouvais-je concevoir l'espoir de l'atteindre. C'est alors que je vous rencontrai, signora. Malgré vos misérables vêtements, je reconnus en vous la grande dame que, parfois, j'avais aperçue à Jativa dans son carrosse. C'est vrai, Giacomo, tu étais triste, je te consolais. Tu étais pauvre, je te donnais de l'argent. Tu étais faible, je te promis de te secourir, et je crois avoir tenu parole. Ah, signora, certes, car vous avez sauvé le trésor qui me restait. En arrivant de Jativa, j'avais amené ma fille, ma Nina, si belle que, parfois, en la regardant, j'oubliais que sa mère était morte. Achève, Giacomo. Il ne me déplaît pas que tu me prouves la force de ta mémoire. Soit. Et croyez bien, signora, que ma mémoire seule n'est pas forte. Il y avait déjà des années que j'étais à Rome. Sur vos conseils, et sans doute grâce à votre influence occulte, j'étais entré ici en qualité de deuxième intendant. Sur vos ordres, je m'appliquais à conquérir la confiance absolue de la signora Lucrèce, en sorte que je parvins au poste envié de premier intendant de son palais. Un soir, Nina avait alors 14 ans, vous êtes venu me trouver. Sur vos conseils, toujours, j'avais loué une petite maison où ma fille Nina vivait enfermée avec une domestique, ne sortant qu'au soir. Donc, ce soir-là, signora, vous avez sauvé ma dernière affection. Quelqu'un avait vu Nina. Ce quelqu'un, c'était César, fils du pape. Et de même que le père avait violé ma femme, de même le fils voulait violer ma Nina. Mais vous étiez là. Nous nous rendîmes ensemble aux abords de la maison que j'avais louée pour Nina. Cachés derrière une masure, nous guettions les alentours. Je ne comprenais pas. Tout à coup, une 12aine d'hommes arrivèrent, pénétrèrent dans la maison. Ivre de rage et de désespoir, je voulus m'élancer. « Ma Nina, ma pauvre Nina » m'écriai-je. « Elle est en sûreté, tais-toi » C'était la vérité. Vous aviez su ce qui allait se passer, et, sans me prévenir, vous aviez fait partir mon enfant. Les hommes repassèrent devant nous en sacrant. À leur tête, je reconnus César. Dès lors, signora, je vous jurai autant de reconnaissance que j'avais juré de haine au Borgia. Reconnaissance que tu témoignes en refusant. Rien, signora, je ne vous refuse rien. demandez ma vie, elle est à vous. Si je suis épouvanté de ce que vous voulez faire, c'est pour vous seul, pour moi. Voyons, Giacomo, veux-tu te venger ? Si je le veux ! Giacomo s'était levé. Sa figure resplendissait de haine. « Si je le veux, répéta-t-il, je ne vis que pour cela. Voyez s'il faut que ma haine soit forte, puisque j'ai pu des années lui faire subir le supplice de la patience. » La maga le regardait avec une sombre satisfaction. « Eh bien, Giacomo, reprit-elle alors, ne comprends-tu pas que moi aussi, j'ai une vengeance à assouvir ? Ne comprends-tu pas que ma haine poursuit le même but que toi ? Comprends donc au moins que l'heure est peut-être venue. » La sorcière avait prononcé ces mots avec une étrange et solennelle énergie. Ses traits se tendaient sous l'effort du sentiment redoutable qui les animait. Ils reprenaient pour un instant une sorte de jeunesse. « Oh ! S'écria Giacomo. Il me semble que je vous revois tel que jadis. C'est la haine qui me rajeunit. Oui, vous êtes presque comme je vous entrevis en Espagne, à Jativa. Heureuse. Ah oui, certes, je le fus. Riche, honorée, orgueil et joie de la grande famille d'Evanozzo, recherchée par les plus nobles et les plus puissants seigneurs, belle de mes 18 printemps. Je ne songeais qu'au bonheur de vivre. Mon père et ma mère m'idolâtraient. Mes caprices faisaient la loi dans le somptueux château de Vanozzo. Des hommes jeunes, beaux, se disputaient la faveur de mes sourires. Mais je n'en aimais aucun. Un jour, il vint, lui. Il passa dans le château comme un météore malfaisant. La famille des Vanozzo, honoré d'abriter sous son toit Rodrigue Borgia, le descendant des rois d'Aragon, le neveu du pape Calixte III, lui offrit une hospitalité comme les grands d'Espagne savent en offrir aux princes. Dès que je le vis, je compris le sens de l'amour. Il était beau, d'une sombre, d'une fatale beauté. Ses yeux ardents me bouleversaient. Sa parole fougueuse me berçait. Je n'entrevoyais plus de bonheur que dans la joie de lui appartenir, d'être à lui tout entière, corps et âme, à jamais. Lorsqu'il partit, il n'eut qu'à me faire un signe. Je le suivis, abandonnant père, mère, maison, famille. Je le suivis, heureuse de devenir son esclave. Je le suivis, sans même savoir pourquoi. Uniquement parce qu'il m'avait dit « Viens ». La maga était dans une de ces minutes de crise où les pensées enfouies dans les replis du cerveau s'échappent d'elles-mêmes, où les secrets qui dormaient au fond du cœur montent jusqu'aux lèvres. « De ce jour, poursuivit-elle, commença mon martyre. Lorsque je rappelais à Rodrigue qu'il m'avait juré de faire consacrer notre union, il éclata de rire. Et bientôt, j'acquis l'atroce conviction que l'amour de ses yeux était un mensonge. Mensonge, l'amour de ses paroles. Mensonge, tout ce qu'il faisait et disait. Des années coulèrent, lentes, mornes. Mon père et ma mère étaient morts de désespoir. J'eus des enfants. J'essayais de raccrocher ma vie à l'amour maternel. Un jour, Rodrigue me dit que je le gênais. Je me jetai à ses genoux. Je priais, je pleurais. Le lendemain, Rodrigue avait disparu, me laissant un billet qui contenait cette seule ligne. « Puisque tu ne veux pas t'en aller, c'est moi qui m'en vais. » Affolé, je me précipitai dans la chambre des enfants. Ils avaient disparu. « Comment ne suis-je pas devenue folle ? Comment ne suis-je pas morte ? Lorsque je revins à la santé, après 6 mois de fièvre, je m'aperçus, avec une épouvante sans nom, que j'aimais encore Rodrigue. Celle qui avait été Rosa Vanozzo et qui n'était plus que la sorcière du ghetto, ajouta « Hélas, malheureuse et lâche, je l'ai aimé de longues années, je l'ai aimé de loin. Je le suivis à Rome, je passais ma vie à l'épier, à compter ses amours, et peu à peu, je sentais se fortifier dans mon cœur le besoin de la vengeance. Longtemps, l'amour et la haine se sont disputés mon âme. La haine a triomphé. Oh, comme vous avez dû souffrir! Mais vos enfants, mes enfants, lorsqu'ils furent devenus grands, je voulus les voir, leur dire la vérité. César voulut me tuer. François voulut me faire enfermer comme folle. Lucrèce me fit jeter dans la rue. Signora, ces souvenirs atroces vous font mal. Ils me font du bien, Giacomo. Quand j'ai fouillé ainsi les plaies de mon cœur, quand j'ai versé sur elles le poison qui corrode, il me semble que le mal diminue, et le mal, c'est l'amour. Écoute, je n'ai pas fini. Parmi toutes celles que Rodrigue a aimées, il en est une que j'ai détestée plus que les autres. Il me sembla que celle-là, Rodrigue l'aimait vraiment. Grâce aux intelligences que j'avais su me créer dans le Vatican, je vis enfin qu'elle était enceinte. L'enfant naquit. C'était une petite fille. Il m'est impossible de dire à quel point je la haïssais et quelle fut ma joie lorsque je constatais que la mère, lâche comme le père était féroce, abandonnait son enfant. « Vous m'épouvantez, signora !» La mère, c'était la comtesse Alma. L'enfant fut exposé sur les marches de l'église des anges. Je m'en saisis, je l'emportais. Toutes mes haines vinrent se concentrer sur la tête de cette innocente. Je la donnai à une horrible mégère qui la tortura, jusqu'au jour où une révolte gronda soudain dans mes entrailles et où je m'aperçus que mon cœur saignait des abominables souffrances de l'enfant. Elle avait 10 ans. Toute pantelante de son martyre, je l'emportai chez moi. Et ce fut comme un rayon de soleil qui entre dans l'enfer. Je l'appelais Rosita. Elle grandit, sa beauté devint ineffable. Et moi, la maudite, moi, la sorcière, j'éprouvais alors des joies si douces qu'il me semblait parfois que mon cœur allait éclater. J'en arrivais à oublier ma vengeance. Mais Rodrigue devait lui-même se rappeler à mon souvenir. Un homme, un vieillard, s'est pris de passion pour ma Rosita. Et ce vieillard, qui aime Rosita, qui veut la violer. Sais-tu qui c'est, Giacomo? C'est le pape. C'est Rodrigue Borgia, le père de mes enfants, l'amant de la comtesse Alma, le père de Rosita. L'assassin de ma femme, acheva Giacomo. La maga sourit étrangement. De même que j'ai sauvé ta fille Nina, dit-elle. Je viens de sauver Rosita. Cette nuit même, elle quitte Rome. À cette heure, elle doit être en sûreté. Eh bien, Giacomo, comprends-tu que l'heure est venue de me venger et de te venger aussi? Comprends-tu que j'ai hésité tant que j'avais près de moi Rosita et que, maintenant, il ne me reste plus rien à faire dans la vie, sinon de faire souffrir ceux qui m'ont fait souffrir. Oui, signora, et je vous aiderai de toutes mes forces. Bien. Pour commencer, il faut que Rodrigue sache où me trouver. Vous croyez donc qu'il voudra vous voir? J'en suis sûr. Il me fera chercher au ghetto. Ne m'y trouvant pas, il voudra savoir ce qu'est devenu la maga. Te charges-tu de l'en informer? Ce sera très simple, signora. Tu connais le temple de la Sibylle, à Tivoli, près de la villa du pape. J'y ai été avec la signora Lucrèce, c'est cela. J'ai de fortes raisons de croire que le pape voudra aller y passer quelques jours. C'est l'antre de ses débauches. Eh bien, c'est là que je vais. À 20 pas du temple de la Sibylle se trouve, au-dessus du précipice, une caverne naturelle. Je l'ai déjà habitée. C'est dans cette caverne que Rodrigue me retrouvera dès qu'il aura besoin de moi. Et bientôt, il aura ce besoin de me voir. Il faut qu'il le sache. Il le saura, signora. Je m'en charge.
Bien, Giacomo. Tu es un loyal serviteur.
Et maintenant, moi, la mère de Lucrèce, conduis-moi près d'elle.
Signora, prenez garde, fit Giacomo en tremblant. Si elle se réveille, elle vous tuera.
Non, Giacomo. Elle ne me tuera pas. Avant de dire adieu pour toujours à mon passé, et peut-être à la vie, je veux voir ma fille. Je le veux, Giacomo.
Venez, signora, consentit enfin le vieillard.
Il éteignit le flambeau et prit la main de la maga. La vieille frissonna d'une joie terrible. Tous deux sortirent. Ils longèrent des couloirs obscurs, descendirent des escaliers, franchirent des salles silencieuses et entrèrent enfin dans un étroit cabinet.
« C'est là !» murmura le vieillard à l'oreille de la maga.
« Personne n'entre jamais dans ce cabinet. La porte que nous venons de franchir ne s'ouvre jamais. Lucrèce en a seule la clé, mais j'en ai fait une sur vos ordres. Là est la chambre à coucher. Le lit est en face. Les suivantes de nuit dorment dans la pièce voisine. « Attends-moi ici !» répondit la maga, qui déjà ouvrait avec d'infinies précautions une petite porte faisant communiquer le cabinet avec la chambre à coucher. La mère de Lucrèce, ayant franchi cette porte, la laissa entr'ouverte et s'arrêta un instant. Elle fouilla dans son sein et en tira un minuscule flacon qu'elle déboucha lentement, sans trembler. Elle s'avança vers le lit, glissant plutôt que marchant, sans un bruissement. Une goutte, une seule goutte sur ses lèvres, et c'est fini de Lucrèce. L'agonie sera affreuse. Demain, les Borgia porteront le deuil. Demain, l'âme du vieux Borgia subira le premier coup de ma vengeance. À la lueur de la veilleuse, Lucrèce lui apparut. Elle dormait. Un sourire errait sur ses lèvres. Un de ses bras pendait hors du lit, tandis que l'autre soutenait sa tête qu'encadrait le flot de ses cheveux dénoués. Elle était ainsi souverainement belle. « Ma fille !» pensa la maga. Immobile, elle contempla silencieusement Lucrèce. La jeune femme fit un mouvement, soupira, prononça quelques mots inintelligibles et son sourire se fit plus doux. Lorsque Lucrèce eut repris l'immobilité du profond sommeil, la vieille, dans un glissement, se rapprocha de la tête du lit. « Elle rêve, » pensa-t-elle. « Elle rêve, heureuse, car son sourire est calme. Jadis, là-bas, je venais la nuit dans sa chambre, et comme maintenant, je me penchais sur son berceau. » Alors, il arrivait parfois qu'elle s'éveilla. Elle me tendait ses petits bras en riant, et elle me disait « Bonsoir, petite mère. Et maintenant, je vais la tuer. » La sorcière se pencha presque à toucher le visage de Lucrèce. Une étrange hallucination s'empara d'elle. Un miracle s'accomplit dans cette âme ulcérée. Elle revit Lucrèce. Sa fille, toute petite, telle qu'elle l'avait bercée dans ses bras maternels, rayonnante puissance de la nature mystérieuse et tendre. Et la pauvre vieille, maintenant, pleurait à chaudes larmes. Machinalement, elle avait rebouché son flacon et l'avait remis dans sa ceinture. Et ce ne fut pas une goutte de poison qui tomba sur les lèvres de Lucrèce endormie, ce fut une larme. Au contact de la goutte chaude et salée, Lucrèce avait eu une secousse. Une seconde encore, elle lutta contre le sommeil.
Puis, brusquement réveillée, elle porta la main à sa lèvre.
« Qui est là ? »
cria-t-elle épouvantée en sautant du lit. L'instant d'après, les servantes réveillées accoururent avec des flambeaux, et Lucrèce jeta des ordres furieux.
« Cherchez ! Qu'on fouille partout !
Il y avait quelqu'un, j'en suis sûr. J'ai senti, là, sur ma bouche, « Oh, c'est peut-être un baiser de spectre !»
On chercha partout, on ne trouva rien. Cependant, Giacomo avait reconduit l'amaga jusqu'à la petite porte par où la sorcière avait pénétré dans le palais riant.
« Êtes-vous satisfaite, signora ? » demanda-t-il au moment où elle allait s'éloigner.
« Non, répondit la vieille sur un ton étrange. « Mais j'ai vu ma fille. »
Et elle s'enfonça dans la nuit, se dirigeant vers l'une des portes de Rome. Là, elle attendit l'aube. La porte ouverte, elle sortit de la ville et s'éloigna dans la campagne, marchant d'un pas résolu.